Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'écouter Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi dans cette nouvelle édition de Version originale. Depuis l'élection de Donald Trump au mois de novembre dernier, les États-Unis occupent le centre de l'actualité et des préoccupations de beaucoup d'entre nous. Parmi les problèmes qu'implique la mise en place de l'administration Trump, on retrouve, bien sûr, celui des inégalités raciales. L'histoire des Noirs en Amérique, c'est l'histoire de l'Amérique. Et ce n'est pas une belle histoire, a écrit James Baldwin. On peut discuter, bien sûr, de la deuxième proposition de la phrase. En tout cas, un livre paraît au bon moment pour enrichir notre réflexion. C'est l'ouvrage de Christophe Hila Sommers, « Le son de la révolte ».« Le son de la révolte », publié aux éditions « Le mot et le reste », une histoire politique de la musique noire américaine. Cet ouvrage s'attache à démontrer avec exhaustivité en quoi la musique africaine-américaine est étroitement liée aux luttes contre le racisme institutionnel américain. Ce livre permet de voir sous un autre aspect la réalité du racisme aux États-Unis au cours des siècles. Puisque la musique est au cœur de la réflexion de ce livre, je vous propose d'écouter un premier morceau avant d'écouter l'auteur Christophe Hila Sommers.
Oh, yes it will.
A Change Is Gonna Come, Sam Cooke, un classique, un magnifique morceau. Sam Cooke qui est évoqué en plusieurs passages dans les livres de mon invité, Christophe Hila Sommers. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être présent à l'antenne d'Aligre FM ce soir, Christophe Hila Sommers. Votre livre « Le son de la révolte » est publié aux éditions « Le mot et le reste ». C'est donc une histoire politique de la musique noire américaine. Je rappelle que vous êtes donc historien du Moyen-Âge et vous êtes aussi DJ. Donc ce parcours vous rend tout à fait légitime parce que c'est la musique dont vous parlez dans ce livre vous a nourri. C'est ce que vous disiez, Antoine. Et donc vous êtes également l'auteur de deux autres livres qui s'intitulent donc l'un « Nous, notre histoire » et l'autre « La commune ». Alors pour celui-ci, donc le son de la révolte. Vous examinez l'histoire des États-Unis depuis l'arrivée des premiers esclaves africains sur le sol américain en 1619 en Virginie, jusqu'au mouvement Black Lives Matter. En 7 chapitres, chacun traitant d'un style musical différent, allant du spirituel au hip-hop, vous tâchez de répondre à la question « En quoi la musique africaine-américaine est-elle inséparable des luttes contre le racisme systémique américain ?» Tout un programme. Vous abordez cette question de manière approfondie, détaillée. L'ouvrage est exhaustif, riche d'informations. Dans un premier temps, Christophe Hila Sommers, vous recherchez dans les traditions africaines les racines, les singularités, les forces qui expliquent, qui ont permis à ces hommes et à ces femmes réduits en esclavage de résister et de transfigurer cette lutte dans la musique. Alors, la première question, c'est comment expliquer que ces hommes et ces femmes ont su assimiler, par exemple, les ballades irlandaises ou les hymnes protestants pour les remanier afin de les adapter à leur propre esthétique ?
L'approche des sociétés ouest-africaines, parce que c'est essentiellement des ouest-africains qui ont été déportés sur le sol américain, l'approche musicale n'a rien à voir avec l'approche académique des sociétés européennes, en fait. Il n'y a pas l'idée de spécialiste. Il n'y a pas l'idée qu'il y aurait des musiciens professionnels et à côté des spectateurs qui regardent ces professionnels jouer de la musique. La musique, elle est présente dans toutes ces sociétés. Au niveau social, à la fois, bien sûr, bon, il y a les travaux des champs, on le sait, bien sûr, pour accompagner les travaux agricoles, mais aussi, c'est un moyen de créer un lien social. Et c'est à la fois la musique et la danse, parce que les polyrythmies sont très importantes dans ces sociétés. Et par la danse, par exemple, on peut régler des conflits. Par exemple, dans un village, je vais prendre un exemple concret. Il y a une personne dans un couple qui a trompé l'autre avec le voisin et on va se réconcilier en dansant. Enfin, en tout cas, on va essayer en dansant, en se joutant quelque part, en se défiant par la danse. Tout ça accompagné, bien sûr, de rythmique et tout ça encouragé par le village. Donc il y a vraiment, ça c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais vraiment l'importance de la musique comme lien social. Et là où on pousse la chose le plus loin, c'est dans la figure du griot, qui carrément lui est un musicien. Ça peut être un homme ou une femme, on oublie toujours que le griot peut être une femme. Et en fait, il est le garant, celui qui garde la mémoire du royaume, si c'est un royaume, soit de la communauté du village, si c'est un village, etc. Donc vraiment cette idée par la musique, d'entretenir la mémoire. Donc c'est quelque chose de très très important. Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'encore une fois, je reviens à l'académisme européen, il y a les gammes, les notes justes, entre guillemets justes, hein, etc. Il ne faut pas en sortir, il y a une façon de jouer d'un instrument. Au 19e siècle, par exemple, en France, on avait des manuels pour jouer du piano, mais ça s'apparentait presque à des manuels de torture, parce qu'il fallait, justement, on disait qu'il fallait que ce soit la personne qui s'adapte à l'instrument, et pas l'inverse. Alors que dans les sociétés ouest-africaines, c'est l'inverse. Je raconte ça parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Mon fils est à la fac de Saint-Denis et en fait, dans le cadre d'un de ses cours, il y a un intervenant qui est venu, congolais, spécialiste de la rumba congolaise. Et en fait, il expliquait que dans la rumba congolaise, les musiciens accordent leur instrument en fonction de la tessiture du chanteur. Donc, ce n'est pas le chanteur qui s'adapte aux gammes, c'est l'inverse, pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Donc, il y a vraiment une appropriation par tout le monde et une liberté d'action autour de la musique. Elle n'est pas sacralisée et académisée, ce n'est pas français, mais ça, vous me comprenez. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui appartient à toute la communauté. et depuis l'enfance, et tout le monde, encore une fois, est potentiellement musicien, et je reviens aussi à ce que je voulais dire, c'est que dans certaines langues africaines, le mot musicien n'existe carrément pas, parce qu'en fait, tout le monde est potentiellement musicien, en fait.
Comme étant une évidence.
Ouais, voilà, c'est ça.
Expliquez-nous, Christophe Hillasommers, de quelle manière, vous l'évoquez dans votre livre, le christianisme fut autant un instrument de contrôle qu'un lieu d'émancipation pour les Noirs aux États-Unis.
Alors, au départ, dans le christianisme médiéval, dans ce qu'on appelle la chrétienté, c'est-à-dire l'Europe occidentale, l'esclavage existe, mais on n'a pas le droit de mettre en esclavage de chrétiens. Il faut que ce soit un païen, puisque c'est un sou, il n'a pas eu la révélation. Donc lui a le droit d'être mis en esclavage. C'est ce qui explique qu'on va très tôt mettre en esclavage les Amérindiens. Quand les Espagnols et les Portugais arrivent les premiers dans le Nouveau Monde, ils vont mettre en esclavage des païens. C'est pour ça que les Amérindiens vont souffrir énormément de l'arrivée des germes de l'Ancien Monde. Donc les maladies vont très vite les tuer, plus bien sûr les conditions effroyables dans lesquelles ils sont gardés. Et du coup, on va aller chercher une autre main-d'œuvre corvéable, donc les Africains. Et au départ, l'Église catholique, comme les autorités protestantes, disaient qu'il ne faut surtout pas les convertir, parce qu'on n'a pas le droit, puisque sinon c'est des chrétiens, on n'a pas le droit de les mettre en esclavage. Et puis au bout d'un moment, pour des histoires, encore une fois, de profit, la papauté va dire, vous pouvez les convertir, même il faut les convertir, et puis vous aurez le droit de continuer à les mettre en esclavage. Alors, tout d'un coup, là, on veut...
Quel cynisme.
Voilà, quel cynisme. Et donc, ils sont convertis aux États-Unis, comme c'est des protestants, c'est moins bien organisé que dans les colonies catholiques françaises, espagnoles ou portugaises, puisqu'il n'y a pas d'autorité aussi prégnante comme chez les protestants, comme la papauté chez les catholiques. Mais donc les protestants vont être moins violents dans leur volonté de convertir leurs... Enfin, moins violents dans le sens où ils vont moins chercher à le faire, en fait. Ils vont moins insister, contrairement aux catholiques. Et en fait, c'est vraiment... C'est intéressant parce que dans ce que vont devenir les États-Unis, enfin, ce que sont devenus les États-Unis, parce que là, on est à la fin du XVIIIe siècle, donc les États-Unis, beaucoup d'Africains déportés vont se convertir d'eux-mêmes à certaines branches du protestantisme, et c'est surtout les baptistes et les méthodistes. Parce que dans ces deux courants protestants, il y avait les Blancs qui pratiquaient ces courants étaient pour la plupart contre l'esclavage. Donc c'est logique que les Noirs aillent se chercher une religion qui mette en valeur l'idée de destruction de l'esclavage. Et vous disiez qu'à la fois un lieu d'émancipation et lieu de... En fait, beaucoup embourbés dans la bêtise de leur racisme systémique, beaucoup de planteurs, quand ils voient les Noirs se convertir d'eux-mêmes, se disent, ils se convertissent à la religion du maître, et ça prouve encore une fois qu'ils n'ont pas de libre arbitre qu'ils imitent leur maître. Et donc, ils vont laisser une certaine liberté aux esclaves dans les premières églises, dans les premiers temples protestants. Et en fait, ces petites églises en bois fabriquées dans les quartiers des esclaves sont des lieux de sociabilité, mais des lieux aussi de réunion politique. C'est dans ces endroits-là que justement les esclaves mettent en œuvre les fuites, les révoltes, etc. Et puis surtout, c'est un des lieux où on va célébrer son identité et on va témoigner à travers la musique des conditions effroyables dans lesquelles ces hommes et ces femmes sont maintenus.
Alors, Christophe Hillasommers, ce qu'il y a de marquant dans votre livre, c'est que vous détruisez certains mythes, notamment donc on a souvent évoqué donc la guerre de sécession avec un mythe tenace, écrivez-vous, qui voudrait que l'esclavage était donc l'enjeu central de ce conflit. Vous dites que rien n'est plus faux, et ce sont donc des rivalités économiques entre les nordistes et les sudistes, qui sont donc la cause de cette guerre de sécession qui va donc s'éteindre de 1861 à 1865. Expliquez-nous en quelques mots donc ce conflit. Alors je dresse ça,
mais c'est important. Mmh. En fait, le Sud est une société agraire. Au 19e siècle, c'est plus le tabac, c'est plus le café, c'est essentiellement le coton. Le coton rapporte aux planteurs énormément d'argent parce qu'ils le déversent sur les marchés européens. Le Nord, c'est une société qui commence à s'industrialiser. Mais le problème, c'est que la révolution industrielle qui s'opère aux États-Unis, elle a pour concurrent les Anglais qui sont partis avant, les Français et maintenant les Allemands. Donc il faut se protéger économiquement de ces rivaux industriels que sont ces puissances européennes. Et donc du coup, le Nord veut mettre des taxes à l'entrée pour les produits européens. Donc vraiment, il y a vraiment des idées de taxes, et pour les produits qui sortent, bien évidemment, du coup, parce que l'Europe va mettre aussi des taxes. Or, le problème du Sud, c'est que le Sud, lui, il veut un libre-échange parce que son marché essentiel, c'est l'Europe. Et si tout d'un coup, on commence à mettre des taxes sur le coton, eh ben, ça casse l'économie du Sud. Donc c'est vraiment protectionnisme au Nord, libre-échange au Sud. Ensuite, du coup, ça se crispe entre les deux. Et le Nord ne veut pas perdre, parce que son marché essentiel pour toutes les denrées industrielles qu'il fabrique, c'est avant tout le Sud, lui. Et si le Sud fait sécession, il perd son marché. Donc c'est pour ça que cette guerre, c'est vraiment pour des raisons économiques. Et Lincoln, profitant de cette guerre, va promettre la liberté aux Noirs du Sud pour qu'ils participent à la chute du Sud. Mais enfin, les Noirs n'ont pas attendu Lincoln, n'ont pas attendu les Blancs du Nord pour essayer de renverser le système. Et très tôt, il y a énormément d'hommes et de femmes qui s'enfuient. C'est plusieurs centaines de milliers pendant le coup de la guerre qui vont s'enfuir vers le Nord, qui vont profiter du conflit pour fuir les horreurs du Sud. Et il y a énormément de Noirs qui vont demander à être incorporés dans l'armée du Nord. Ce qui va être très difficile pour eux. Il y a des bataillons qui vont finalement, parce qu'ils mettaient tellement de pression sur Lincoln, il va créer des bataillons noirs, mais avec des officiers blancs, moins bien nourris, moins bien payés, moins bien vêtus, bien évidemment, moins bien armés, puisque considérés aussi par les nordistes au pouvoir comme des sous-hommes, toujours.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je reçois Christophe Hilla-Sommers, qui publie aux éditions Le Monde et le Reste Le son de la révolte, une histoire politique de la musique noire américaine. Alors, la révolution américaine, donc 1776-1783, c'est cette période-là, vous rappelez que ça ne changea rien aux conditions inhumaines auxquelles étaient soumis donc les esclaves. Les rédacteurs de la Constitution de 1787 vont même consolider l'esclavage. Ils garantissent l'aide du gouvernement fédéral aux planteurs du Sud en cas de fuite ou de révolte des esclaves. Cette prise de position de la Constitution en faveur de l'esclavage de façon aussi violente, est-ce que ça vient au départ d'une idéologie, d'un pragmatisme économique ? Bien sûr qu'on parle de ce racisme-là. Quelle en est l'origine, si on devait trouver une cause profonde ?
Alors, je pense que c'est plusieurs racines. Il y a d'abord cette... Il y a quelque chose qui se met en place à partir du XVIe siècle, qu'on sent venir au Moyen-Âge, mais en fait l'Europe au Moyen-Âge, c'est vraiment le petit poussé de ce qu'on appelle l'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et l'Europe en fait. On oublie l'Océanie qui est un peu indépendante, même si elle a des liens bien sûr avec la... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les Amériques vivent seules, elles n'ont aucun contact. Il y a les Vikings qui sont passés de façon très courte dans le Labrador, le Canada actuel, mais les contacts entre l'Ancien et le Nouveau Monde, il n'y en a pas. Et en fait, l'Europe est vraiment le petit poussé de tous les développements techniques, politiques, je ne sais pas si on peut parler de développement politique, mais en tout cas, de toute cette avancée qui est l'idée d'avancée humaine de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Et en fait, malencontreusement, par hasard, ce nouveau monde va permettre à l'Europe, justement, de devenir de plus en plus puissante. Et il y a cette idée dans la religion chrétienne telle qu'elle est, mise en place par la papauté au Moyen-Âge, l'idée que c'est vraiment qu'on retrouve encore aujourd'hui, les Européens ont tendance à être complètement ethnocentrés, à croire que leur façon de penser, c'est l'universalisme, qu'il faut l'imposer à tout le monde. Donc ça se développe vraiment à partir du XVIe siècle. Et à côté de ça, il y a toute cette économie de plantation qui se met en place, et effectivement, qui va permettre à l'Europe, toute l'économie esclavagiste, etc., va permettre à l'Europe de s'enrichir, de se développer. Et en plus, le fait d'avoir ce continent immense, on peut se débarrasser du surplus de population, des gens dont on ne veut pas. Ça peut être pour des raisons religieuses, on se débarrasse des protestants quand on est catholique. Ça peut être les pauvres, pour éviter justement, on les envoie travailler presque comme des esclaves, même parfois comme des esclaves dans le Nouveau Monde. Donc ça sert de levier. Et donc, tout ça pour en revenir à cette idée de racisme, les conditions dans les plantations de travail sont effroyables. Les hommes et les femmes qui y travaillent tombent comme des mouches. C'est d'une violence, et du coup, je pense que c'est terriblement humain, mais les Blancs vont s'inventer des histoires. pour pouvoir continuer à s'enrichir sans avoir de scrupules. Parce qu'en fait, quand on est un être humain et qu'on traite un autre être humain en face, on devient aussi malade que, psychologiquement, bien évidemment, parce que c'est parce qu'on n'est pas fait pour ça, pour traiter son prochain comme un non-homme. Et donc, du coup, on va s'inventer des histoires. On va s'inventer des histoires, on va dire, on va prendre la couleur de peau et on va dire, mais en fait, ce n'est pas vraiment des hommes. Donc, on a le droit de faire ça. On a le droit, mais en fait, c'est une espèce de cercle vicieux parce qu'en fait, ça va devenir de plus en plus violent, parce qu'encore une fois, c'est d'une violence, ce système devient de plus en plus violent, et puis surtout, ces hommes et ces femmes se révoltent, à petite échelle ou à grande échelle, s'enfuient, enfin, essaient de saboter ce système, et donc il faut vraiment on essaie de les mater, et du coup, la barbarie appelle la barbarie, et donc on s'invente des histoires, et qui permettront à la suite, parce que tout est lié, encore une fois, de sous-humaniser les Africains, va permettre... de sous-humaniser les extra-européens au moment de la colonisation et va permettre de sous-humaniser les juifs et va aboutir à la Shoah, en fait. Le racisme intellectuel, ça fait bizarre de mettre ces deux mots à côté, mais enfin, tel qu'il a été intellectualisé à partir de l'époque moderne, c'est-à-dire 16, 17e et surtout 18e siècle, va aboutir à la Shoah, en fait. Encore une fois, on déshumanise une partie de l'humanité pour justifier la domination d'une minorité, en fait, sur le reste, en fait.
Vous vous le rappelez, d'ailleurs, les lois anti-juives, certaines ont été inspirées donc, des lois Jim Crow dans le sud des États-Unis.
Les penseurs nazis, si encore une fois, on peut parler de penseurs, se sont énormément inspirés des lois de Jim Crow, donc en vigueur dans le sud des États-Unis au même moment.
Alors, il y a aussi cette volonté, donc, en regard de se construire. Quand on voit la situation, il y avait effectivement des esclaves blancs. Alors, c'était une autre forme d'esclavage à ce moment-là, mais il y avait quand même cette volonté de se constituer une identité blanche également. Oui. En opposition à la couleur de la peau noire.
Tout à fait. Alors au départ, il y a cette vision qui a perduré dans les mentalités des sudistes aristocratiques. Cette vision très saxonne de l'idée qu'il y a la race supérieure, les aristocrates, et puis les gueux qu'on peut exploiter qui sont en dessous. Le problème, c'est que tous ces hommes et ces femmes européens envoyés travailler dans les plantations au 17e au 16 et 17e, surtout 17e siècle, aux côtés des Noirs, il va y avoir des révoltes. Il va y avoir des révoltes et des associations entre Noirs et Blancs exploitées par une minorité blanche, en fait. Et donc, voyant que ça met en danger leur privilèges et leur pouvoir, on va séparer les Noirs pauvres des... les Noirs qui sont tous pauvres, ils sont maintenus en esclavage, des Blancs pauvres. C'est ça que je voulais dire, en fait. Donc, on interdit les mariages entre Blancs et Noirs, on interdit les rencontres. Enfin, on sépare les Blancs pauvres des Noirs pour éviter, justement, que ces gens exploités puissent remettre en cause le système. Et donc vraiment, j'insiste bien là-dessus, parce qu'on croit toujours, il y a toujours cette idée que l'esclavage était très dur au début, puis petit à petit il s'est effiloché tout seul et que naturellement il allait disparaître. C'est totalement faux. L'esclavage américain devient de plus en plus violent, de plus en plus dur à mesure qu'on avance dans le temps, et le 19e siècle est vraiment la période la plus effroyable au niveau de, non pas que c'était bien avant, mais la condition de vie des hommes et des femmes noires aux États-Unis au 19e siècle est pire qu'elle l'était au 18e ou à la fin du 17e siècle.
Et vous soulignez à un moment, Christophe Villasson, parce que dans le Sud, il y avait donc cette hantise de l'insurrection des Noirs. Il y avait l'exemple d'Haïti, donc, qui était devenu donc, un pays libre en 1804. Et les propriétaires d'esclaves avaient en tête cela. Et donc, ils avaient donc cette hantise que les Noirs se soulèvent. Et vous expliquez que cet état d'esprit est à l'origine de cette liberté de port d'armes, de cette facilité à utiliser une arme pour se défendre.
Parce qu'en fait... les Blancs sont moins nombreux que les Noirs dans le Sud. Et ils sont terrorisés, en fait. Parce qu'ils savent ce qu'ils font, que c'est pas bien. Et donc, ils savent qu'à un moment donné, ça peut leur retomber dessus. Donc, ils sont terrorisés. Et comme, en plus, eux traitent des êtres humains de façon inhumaine, ils sont persuadés que si les Noirs vont les renverser, ils vont les traiter avec la même horreur. L'histoire des luttes noires américaines a montré que c'est tout l'inverse. Enfin, je prendrai le bel exemple de Martin Luther King. Enfin, c'est tout l'inverse de la violence systémique du Sud. Donc, ils ont peur, ils veulent maintenir leurs privilèges, ils veulent maintenir leur système. Et donc, chaque homme blanc, pas les femmes, hein, les hommes, devient un policier du système, en fait. Est armé et a le droit De vie ou de mort sur n'importe quel noir du sud, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des esclaves qui passaient d'une plantation à l'autre pour diverses X raisons, ou alors qu'elle est dans la ville à côté, faire des courses pour leur maître, etc. Et se promener en tant qu'esclave seul sur les routes du sud, c'était très, très dangereux, parce qu'il suffisait de deux hommes blancs, un peu avinés ou pas, qui vous croisent sur la route. Ils ont le droit de vous arrêter comme un flic, de vous demander ce que vous faites là. Est-ce que vous avez votre papier de circulation? Parce qu'en fait, souvent, on leur faisait des papiers de circulation, puisqu'ils ne sont pas libres de circuler. Donc, il faut qu'ils justifient le fait qu'ils circulent sur les chemins. Et ça pouvait très mal finir. Si c'était une femme, ça pouvait finir par un viol. Si c'était par un homme, rien que pour s'amuser, on pouvait le tuer. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir le maître, on disait, on est désolé, allez en rembourser ou je ne sais quoi. Mais c'est effroyable, en fait. C'est une société ultra violente, et tous ces hommes sont armés. Et effectivement, l'arme comme quelque chose d'essentiel dans la culture américaine vient effectivement de cette société ultra-violente où n'importe quel blanc est le policier du système esclavagiste, en fait.
Et on voit bien que cette attitude perdure, hélas.
Bien sûr. Tout à fait.
Puisque donc le propos de votre livre, Christophe Hila Sommer, c'est donc de dérouler une histoire politique de la musique noire américaine, voyons donc à travers les années, à travers de nombreuses décennies, comment les Noirs ont lutté pour leur liberté, pour leurs droits, grâce à la musique. C'est le cœur de votre livre. Alors, en 1804, donc, l'esclavage, on met fin à l'esclavage en 1865, et les fameuses lois Jim Crow, donc, qui va mettre en place la discrimination, donc le racisme d'État, c'est en 1896. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une déconvenue finalement, l'esclavage s'arrête, mais en fait la discrimination se met en place. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette déconvenue, cette déception qui fait naître le gospel?
Je pense que ça fait naître le gospel et le blues.
Et le blues.
En fait, qui partent de la racine spirituelle, et en fait, c'est, on va dire que la version profane, c'est le blues. Qui est un moyen de témoigner des conditions de ces hommes et de ces femmes après la guerre de sécession, de ces hommes et ces femmes libres à présent, mais en fait, ils racontent ce que ne veut pas raconter le gouvernement, en fait, qui parle de l'esclavage à une sorte de néo-esclavage, en l'occurrence, c'est le métayage, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à gérer des terres qui appartiennent, en général, soit aux enfants, soit à leur ancien maître, soit à leur ancien maître, dans des conditions, ils doivent payer, bien comme un serf du Moyen-Âge, en fait, il doit payer tout un tas de choses à son maître, puisque la terre lui appartient, et donc, en fait, c'est une sorte d'esclavage qui ne dit pas son nom. Donc, effectivement, le blues va raconter le quotidien de ces hommes et ces femmes fraîchement libéré, et le gospel va être un moyen effectivement de célébrer. Et le gospel, il y a l'identité noire, l'identité de la lutte, et le gospel, en fait, il y a ce côté, en fait, c'est ce que les chercheurs appellent aujourd'hui l'afro-christianisme, en fait, a une approche de l'évangile social, c'est ce qu'on appelle l'évangile social. Et en fait, le gospel, c'est un peu la bande-son de cet évangile, en fait. C'est vraiment, on passe à quelque chose qui accompagne, mais de façon religieuse, encore une fois, le combat et la célébration de l'identité. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais parce que c'est tellement complexe que, enfin voilà.
Alors, on pourrait dire par exemple ce qu'on appelle les rock songs, c'est-à-dire les chansons que les esclaves chantaient quand ils travaillaient dans les champs. Donc c'était donc le tout premier chant, la toute première musique créée sur le sol américain. Ensuite, l'autre étape, c'est le blues et le gospel. Est-ce qu'on peut, c'est très schématique, mais est-ce que ça peut se présenter ainsi?
Oui, mais en fait, c'est toujours pareil, parce que le religieux et le profane sont toujours liés. Mm-hmm. Parce qu'en fait, vous avez parlé à raison de work song, mais les work songs, elles apparaissent au même moment que les spirituels. Et en fait, les rares blancs qui se sont intéressés à la culture musicale des Noirs américains au 19e siècle, il n'y a pas eu beaucoup de chercheurs, mais il y en a eu quelques-uns, et ils se sont rendus compte qu'en fait, toujours cette liberté, on fait ce qu'on veut d'un morceau, on se l'approprie, on le tord, etc., comme dans les cultures, ce dont on a parlé dans les cultures ouest africaines. Et donc, une work song peut aussi être l'air d'un spirituel, mais sauf qu'on change les paroles. C'est-à-dire que quand on est en train de travailler dans les champs, on va raconter, on va se moquer du compromettre et des coups de fouet, ou on va déplorer les coups de fouet, ou passer un message
dans les chansons.
Et dans les spirituels, on va parler de la liberté, on va s'identifier au peuple hébreu, au peuple juif, mais en fait, on parle aussi avec des codes des éventuels rendez-vous pour des révoltes ou pour fuir vers le Canada, vers la liberté, etc. Donc, le spirituel et work song, c'est un peu la même chose, et effectivement, mais après on retrouve toujours le blues et le gospel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'énormément de bluesmen, parmi les premiers bluesmen, ont aussi été pasteurs, en fait. Donc cette frontière entre musique profane et musique religieuse, en fait, elle est très poreuse, en fait. Et c'est surtout la bourgeoisie noire américaine qui a voulu séparer, c'est parce que du coup, comme le blues est issu du prolétariat et aborde notamment la sexualité de façon frontale, et que une partie des bourgeois noirs voulait calquer au puritanisme blanc de la bourgeoisie blanche, du coup, rejeter le blues. Mais en fait, le blues et le gospel sont très, très liés. Comme les spirituels et les work songs.
On écoute un peu de musique, Christophe Hilla-Sommers, et on reprend notre entretien au sujet de votre livre « Le son de la révolte ». C'est publié aux éditions « Le mot et le reste ». Hey, on my mama, nigga. I'ma be the greatest to ever do this shit. On my mama don't like. On the dead homies. Hey, Soundway, turn this shit up, nigga. Turn this shit up. Soundway, turn this shit up, nigga. Tell me who the bitch nigga hating on me. Jumping on my dick, but this dick ain't free. To Pimp a Butterfly, another classic CD. Ghetto lullaby for everyone they MC. Blow, 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 blow. Nigga, now RIP. My diligence is only meant to write your eulogy. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I. Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright, alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? Alright, nigga, we gon' be alright, huh? We gon' be alright, nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trap the bag for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go?
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Kendrick Lamar, le titre du morceau All Right. En page 444-45, Christophe Hilla-Sommers, vous écrivez au sujet de l'assassinat de George Floyd le 25 mai 2020. Vous précisez donc que lors des manifestations, le morceau qu'on vient d'écouter, donc All Right, était sur toutes les lèvres, attestant la détermination des jeunes activistes à poursuivre le combat coûte que coûte, jusqu'à ce que justice soit vraiment faite. On parlera de Lives Black Matter, mais quelques mots sur le jazz, si vous voulez bien. Le début du XXe siècle marque donc l'avènement d'une culture africaine-américaine de divertissement, hein, faut préciser. Expliquez-nous, mais évidemment, le jazz, on le connaît, c'est une musique qui est installée dans notre paysage, dans notre culture, mais c'est bien le temps d'y réfléchir. Expliquez-nous en quoi le jazz, au moment où il apparaît, est une révolution culturelle de grande ampleur, comme vous le précisez.
Parce que c'est vraiment la première forme de culture africaine-américaine qui va être reconnue par l'Amérique blanche. Le blues s'adresse au départ, et même jusqu'à très tardivement, hein, essentiellement à la population noire américaine. Le jazz, en fait, il est à l'image de l'entrée dans l'industrialisation des États-Unis. En fait, c'est vraiment la bande-son du début du XXe siècle. Alors, il naît dans... c'est encore une fois, c'est une évolution du blues, c'est toujours ces histoires de polyrythmie, ça naît surtout à la Nouvelle-Orléans, puis ça va se diffuser par le remonter par le Mississippi jusque dans les villes industrielles du Nord. Et en fait, vraiment, oui, une partie de l'Amérique blanche, hein, minoritaire, hein, ne nous leurrons pas, va tomber amoureux de cette musique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers blancs, ce sont les Européens, en fait, qui vont découvrir le jazz. Et en fait, les États-Unis, au début du XXe siècle, ils ont encore besoin de la population blanche, l'approbation de l'Europe pour ce qui est du goût. C'est un peu comme le petit frère qui a besoin que les grands lui disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et d'autant que cette musique, pour lui, c'est une musique de noir, donc avec tout ce que ça a de péjoratif. Mais en fait, le jazz va prendre son envol au moment de la Première Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça accompagne en fait, encore une fois, une volonté de certains activistes noirs de faire tomber les lois de Jim Crow, d'acquérir leurs droits qu'on leur a promis au moment de la fin de la guerre de sécession. Et notamment, c'est un New Yorkais qui s'appelle John Reese Europe, qui est un compositeur, chef d'orchestre, à la tête d'un big band, et en fait, qui va chercher, comme beaucoup d'autres noirs, à s'engager dans l'effort de guerre américain au moment de la Première Guerre mondiale. À cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y a aucun noir dans l'armée. L'armée est ségrégée, il est hors de question que les noirs aillent se battre pour les États-Unis. Sauf que toute la propagande américaine tourne autour de l'idée qu'il fallait se battre contre le Kaiser, qui est symbole de tyrannie, etc., et qu'il fallait se battre pour la démocratie, le grand classique des États-Unis quand ils partent en guerre en étranger.
C'est ça.
Et donc, beaucoup de noirs américains se disent « si moi je vais me battre pour la démocratie en Europe et que je participe à l'effort de guerre de mon pays, quand je vais rentrer, je pense que je vais être récompensé, c'est-à-dire que on va enfin avoir droit à nos droits. » Et donc il y a une volonté de chez certains noirs de faire tomber la barrière Jim Crow dans l'armée. Le gouvernement américain n'est pas très d'accord, mais en fait le problème c'est que cette guerre, elle commence en 1917, les États-Unis interviennent en 1917, elle est loin d'être populaire aux États-Unis. La plupart des Américains se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire, ils n'ont rien à faire là-bas, ils se disent pourquoi aller se battre, aller mourir en Europe, on n'a aucune raison de le faire. Et donc le gouvernement américain se dit, Wilson se dit, si je n'incorpore que des blancs, ils vont râler, et donc je vais commencer à ouvrir aussi aux noirs, comme ça, enfin voilà. Et donc du coup, il y a ce John Reese Europe qui, lui, va s'engager avec un bataillon new-yorkais, et dans son bataillon, il y a énormément de musiciens qui faisaient partie de son big band. Ils arrivent au mois de janvier 1918 à Brest, et la première chose qu'ils font, c'est jouer, alors on ne parle pas encore de jazz, on parle de ragtime, mais c'est un peu l'ancêtre du jazz. Et encore, parce que du coup, le ragtime, c'est essentiellement avec le piano. Alors, disons que c'est du jazz. Donc, ce big band militaire arrive sur le quai de Brest et la première chose que font ces musiciens, c'est de jouer la Marseillaise en jazz, avec des syncopes, avec de la polyrythmie, etc. Il faut savoir qu'on est au début du XXe siècle. Dans l'imaginaire collectif mondial, la Marseillaise est avant tout associée à un chant révolutionnaire et pas à l'hymne national français. D'ailleurs, il est devenu hymne depuis très peu de temps. Il faut savoir que, par exemple, 50, 60 ans plus tôt, sous le Second Empire, si vous chantiez dans les rues de Paris la Marseillaise, vous alliez en prison. C'était un chant qui était... Donc, chanter ce chant révolutionnaire en arrivant en France, en le jouant de façon jazzifiée, c'est un acte politique très, très fort, en fait. C'est d'affirmer la présence des Noirs dans ce conflit, d'affirmer leur volonté démocratique, puisqu'encore une fois, c'est lié à la Révolution française, plus qu'à l'État français, et qu'en plus, dans l'imaginaire des Noirs américains, la France est liée aux droits de l'homme, etc., même si... encore une fois, on peut parler de ce mythe-là, c'est autre chose. Mais voilà, donc il y a vraiment... C'est un acte très, très fort. Ce bataillon noir va... Alors, l'État-major américain ne veut pas s'occuper des soldats noirs. Et donc, du coup, c'est l'état-major français qui va gérer les soldats américains noirs dans ses propres bataillons. La France n'est pas, est loin de là, est loin d'être épargnée par le racisme. Mais c'est intéressant, c'est qu'avant d'être des Noirs, pour les Français, ce sont des Américains. Il y a cette fascination pour l'Amérique. Et donc, ils ne sont pas du tout traités de la même manière que les tirailleurs sénégalais. Ils sont traités mieux que les Noirs français, en fait. dans les bataillons. Mmh. Et notre John Lewis Europe donc, va participer au combat, va être blessé. Et pendant sa convalescence à l'arrière des tranchées, il va composer énormément de morceaux de jazz et qui ont tous des titres, c'est des instrumentaux, mais qui ont tous des titres liés au combat des Noirs dans les tranchées, justement. Et au moment de sa convalescence, il va profiter de sa présence en Europe pour aller en France, pour aller jouer, notamment à Paris, énormément, ses nouvelles compositions. Et vraiment, les Anglais qui sont là au moment de la guerre, mais surtout les Français, vont tomber amoureux de cette musique. Vraiment, ils n'ont jamais entendu ça. Et, c'est vraiment... et donc, du coup, ce jazz commence à prendre en Europe et donc les Américains eux-mêmes vont dire, si les Européens aiment cette musique, c'est peut-être pas une musique de sauvage autant qu'on l'imagine. Donc il y a une partie des Blancs qui vont commencer à s'intéresser au jazz. C'est vraiment dans les années 20 que le jazz triomphe. On est sorti de la guerre, on a envie de vivre. C'est essentiellement à Chicago et à New York, dans ces grandes métropoles, où il y a ces grandes boîtes de nuit où jouent des orchestres de jazz. Donc il y a vraiment un engouement pour le jazz qui se crée à ce moment-là, et des musiciens Blancs qui vont commencer eux-mêmes à jouer, parce qu'ils vont être fascinés par cette musique, et ils vont commencer à la jouer. Mais très vite, c'est eux qu'on va mettre en valeur aux dépens des véritables créateurs.
Et dans le jazz, on trouve toujours, bien sûr, cette lutte pour les droits.
Il y a,
dans cette vaste production musicale, création musicale qu'est le jazz, on trouve aussi ça.
Tout à fait.
Aussi fortement que chez le blues, le gospel.
Ou que la soul après. Oui, il y a toujours cette idée de lutte, d'affirmation et de témoignage. Et ce qui est intéressant avec le jazz, c'est qu'à mesure que les Blancs... On sent le premier à-coup avec le swing, ce qu'on appelle le jazz swing, les big bands des années 30 pour la danse, en fait, qui vont être de plus en plus, du fait de la crise et du fait du racisme systémique, il y a de moins en moins de big bands avec des musiciens noirs, parce qu'il y a de moins en moins de travail à cause de la crise. Puis ça va s'accélérer avec la Seconde Guerre mondiale, peut-être qu'on y reviendra. Mais donc, il y a une volonté chez les musiciens de jazz noir, puisqu'ils se sont fait... accaparer leur musique et que les premiers journaux spécialisés sont tenus par des Blancs qui ne mettent en valeur que les musiciens Blancs, les maisons de disques sont tenues par des Blancs qui ne mettent en valeur que les musiciens Blancs. Donc il y a vraiment, ils se font accaparer cette musique et du coup ils la radicalisent à chaque fois. Le jazz ne fait que se radicaliser. Le premier à-coup c'est le bebop justement, c'est vraiment avec un aspect très très politique dans le bebop et puis ça se poursuivra avec le hard bop et puis finalement le free. À chaque fois c'est vraiment une volonté de réafricaniser, comme le disent les musiciens de bebop ou de free, leur musique en complexifiant les rythmes, justement, revenons aux polyrythmies africaines, par rapport au métronome du swing tel qu'il était joué par les musiciens blancs, c'est très métronomique et c'est très intéressant parce qu'on se retrouvera ça avec le disco. Les premiers discos étaient des discos très polyrythmiques, alors que le disco, l'eurodisco, comme l'on dit, ou la high energy sont vraiment des produits avec souvent des boîtes à rythme, pas utilisées comme un instrument mais comme un métronome, parce qu'on peut aussi utiliser la boîte à rythme comme un instrument, les rappeurs le font à merveille. Donc il y a vraiment, c'est la même chose. Donc à chaque fois, on radicalise et toujours ce retour aux polyrythmies, justement. Africaines qui sont beaucoup plus parce que pas dans la culture, même si aujourd'hui un batteur blanc peut très très bien jouer du funk ou du jazz le plus polyrythmique possible parce que justement il l'a appris, parce que justement il y a une connaissance, mais à cette époque-là, la population blanche n'étant pas aussi proche de la population noire qu'elle l'est aujourd'hui, et puis il n'y a pas les moyens de communication actuels, donc forcément arriver à complexifier les polyrythmies, pour les Blancs, au départ, c'est difficile, même s'ils apprendront bien évidemment à le faire. Voilà. Mais toujours cette radicalisation du jazz pour éviter qu'il se fasse récupérer par le capitalisme et le pouvoir blanc, en fait. Voilà.
Alors, autre forme de radicalisation, à nouveau, Christophe Hillasommer, c'est le rap. Dans la lutte politique, justement, en quoi le rap diffère-t-il dans ses revendications de l'époque des années 60-70, à l'époque des Black Panthers, par exemple?
Alors, je prends des pincettes parce que c'est mon sentiment après avoir travaillé sur l'histoire des États-Unis à travers sa population noire. À partir de 1619 jusqu'à 1965, on va vers le mieux, même si c'est très compliqué, qu'il y a des retours en arrière, que c'est ultra violent, qu'il faut se battre. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille.
1965, c'est-à-dire que c'est la fin de la...
Des droits civiques, voilà. Voilà, c'est la fin des lois de Jim Crow.
Théoriquement.
Voilà. Et donc là, on peut dire qu'il y a une progression vers le mieux, même si elle est très lente, très compliquée, très hasardeuse. Et je trouve que depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Et en fait, il y a une espèce de... encore une fois, d'optimisme qu'on trouve au début des droits civiques dans la période qui va de 1955 à 1965, excusez-moi pour le mélange des dates, Même si c'est ultra violent, il y a des morts, des emprisonnements, enfin des violences policières, des violences individuelles. Enfin, tout ça ne se fait pas naturellement. Il faut se battre. Mais à partir de 1965, il y a une idée chez l'Amérique blanche que bah, ça y est, il n'y a plus de loi Jim Crow, donc on arrête tout là. Vous arrêtez de faire des manifestations. Il y a vraiment une partie de la population blanche qui tout d'un coup se retourne contre le mouvement des droits civiques parce que tout d'un coup, ils réclament en fait, ils continuent à réclamer ce dont ils ont droit, les Noirs américains. Là, on va commencer à dénoncer le système capitaliste en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, Martin Luther King commence justement à parler de capitalisme. Oui, mais bien sûr qu'il n'y a plus de loi de Jim Crow dans le Sud, mais comment sont traités les Noirs dans les ghettos du Nord? Et puis, il va dénoncer l'impérialisme américain avec la guerre du Vietnam. Donc, il y a vraiment une radicalisation, les Black Panthers, comme on l'a dit, et une approche très critique du capitalisme et d'un point de vue marxiste, souvent. Enfin, je veux dire, il faut se rappeler que les Black Panthers, il y a une approche très marxiste, même s'ils sont énormément influencé par Frantz Fanon aussi, la pensée de Frantz Fanon, par celle de Malcolm X, ça reste un parti marxiste. Et donc, qui dénonce vraiment, et Angela Davis faisait partie du Parti communiste américain, dénonçait aussi le capitalisme au même moment, ce que fait Martin Luther King, ce que faisait à la fin de sa vie Malcolm X aussi. Donc, il y a vraiment une crainte du système qui fait que là, ça va trop loin, en fait. Et donc, il va y avoir une contre-révolution, en fait. Un peu ce qui s'est passé après la guerre de sécession 100 ans plus tôt, où on a essayé d'instaurer un véritable gouvernement populaire et il y a eu une réaction des pouvoirs en place.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
Je reçois Christophe Hilla-Sommers pour son livre Le son de la révolte. Je rappelle, c'est publié aux éditions Le Mot et le Reste. Nous évoquions le mouvement Black Lives Matter il y a quelques minutes. Christophe Hilla-Sommers, c'est un mouvement qui naît sous le mandat du premier président noir. Alors,
tout à fait.
Donc novembre 2008, qu'on le veuille ou non, c'est un événement.
C'est Barack un événement,
Obama,
oui.
Il y a 50 ans, il y aurait des gens qui n'auraient jamais imaginé qu'un noir serait président des États-Unis. Et vous précisez que, aussi salutaire et symbolique soit-elle, cette élection ne changea strictement rien aux conditions de vie dans lesquelles étaient maintenues les classes populaires africaines américaines. Et vous ajoutez même que la faillite morale de Barack Obama s'illustra encore dans son refus d'éradiquer les violences policières systémiques. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que sous Obama, il y a eu donc justement, c'est un sentiment, comme s'il y avait un message adressé aux Noirs en disant « Malgré votre président noir, les choses ne vont pas changer ». Je schématise, bien sûr,
trait. C'est pas forcer le trait, parce que c'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est que si on veut mettre fin, et c'est ce que disent, encore une fois, des penseurs comme James Baldwin, Angela Davis, Martin Luther King, en fait, pour mettre à bas les inégalités raciales aux États-Unis, il faut mettre à bas le système capitaliste, en fait. Et c'est le problème. Et là, c'est très intéressant, c'est que justement, et c'est ce que dit Angela Davis, c'est que l'idée de séparation raciale entre blancs, noirs, etc., c'est ce qu'on abordait au moment de l'esclavage, c'est un moyen de diviser pour mieux régner, en fait. Mais qu'au bout du compte, la classe est plus forte que l'idée de race, puisque c'est un fantasme, et que du coup, Obama, en fait, il défend sa classe. La bourgeoisie d'affaires, le système capitaliste, et il ne défend pas... Alors, effectivement, la population noire américaine, dans sa grande majorité, attendait ce qu'ils, justement, mettent fin à 400 ans d'histoire inégalitaire. Mais non, en fait, il va défendre le système. Et pour moi, il y a quelque chose qui illustre tout à fait ça. C'est Ferguson, dans le Missouri, juillet 2014. Il y a un adolescent qui se fait tuer par la police. C'est presque journalier. Hein, sous Obama, la police américaine tue des personnes noires presque de façon quotidienne. Et là, donc, on a un gamin qui se fait tuer par la police. Ce n'est pas une balle perdue. Hein, c'est plusieurs balles dans le dos. On parle pas de... Donc, ça s'appelle une exécution. Ça ne s'appelle pas une bavure. Et donc, ce gamin, on est au mois de juillet, est tué par la police. La police va laisser le corps pendant des heures sur l'asphalte. Ça, c'est des pratiques qui ont été inaugurées par tous les gouvernements fascistes. Et notamment, on retrouvait ça chez Pinochet et la dictature argentine, laisser les corps dans la rue pour bien montrer qu'on tient la rue et que c'est un système de terreur légale, en fait. Les parents vont vouloir récupérer le corps de leur enfant. La police va lâcher les chiens sur eux, en fait. Ils vont attendre des heures avant de pouvoir récupérer le corps de leur enfant. Quand finalement, le lendemain, la population de ce quartier populaire noir de Ferguson fabrique un mausolée avec les doudous de ce gamin, la police chaque jour vient écraser avec sa voiture le mausolée. Ils le reconstruisent. Finalement, ce quartier va se révolter. Et Barack Obama va prendre le micro en disant que cette population de Ferguson noir était la honte des noirs américains, que c'était tous des délinquants, enfin voilà. Donc ça illustre, voilà, et Black Lives Matter, oui, naît sous Obama. Et ce sont des femmes noires queer pour la plupart, enfin, et ça j'insiste bien là-dessus parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris. Le fait d'être une femme noire aux États-Unis vous place au plus bas de la société. Vous êtes une femme, vous êtes une noire, et d'ici souvent vous êtes une prolétaire, donc vous vous retrouvez au plus bas de la société. Et en fait, ce qui est vraiment marquant dans l'histoire des États-Unis, c'est que les femmes noires, dès le début, ont été à la pointe de la lutte. Elles ont des réflexions sur le système capitaliste, sur le racisme systémique, sur le sexisme intrinsèque aussi à la société occidentale. Donc vraiment qui sont à l'avant-garde du combat pour la justice sociale. On retrouve ça avec un personnage comme Harriet Tubman, une femme une ancienne esclave qui s'est échappée des horreurs du Sud et qui, 59 fois, est retournée dans le Sud chercher des frères et des sœurs qui étaient toujours en esclavage, hein, qui étaient à la pointe de ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain. Voilà, qui était une organisation encore pour libérer les esclaves du Sud. Mais on retrouve ça avec des personnages comme Angela Davis. On retrouve ça avec de nombreuses chanteuses comme Nina Simone, comme Billie Holiday, et jusqu'à ces femmes de Black Lives Matter qui ont une réflexion très inclusive, justement. Elles essaient de relier toutes les luttes des inégalités, justement, pour essayer de renverser le système, et elles ont une critique du capitalisme comme peu d'hommes et de femmes aujourd'hui sur Terre sont capables de le faire, en fait. Et donc, ces femmes vont créer Black Lives Matter, non pas sous Trump ou sous George Bush, mais sous Obama.
Christophe Hill Sommers, ce serait bien aussi qu'on dise quelques mots concernant donc la musique noire. La question se pose aussi à travers donc la question de l'économie politique, c'est-à-dire cette musique, on va dire, pas facilité de langage, donc la musique des Africains américains qui existe sous différentes formes et qui quand même maintenant fait partie de l'industrie du disque de façon globale. Du côté, on va dire, du mainstream. Comment cette musique-là peut malgré tout parvenir à se radicaliser tout en appartenant au système, je veux dire?
Ah, bah, c'est tout ça est très... Alors après, c'est... voilà la limite, parce qu'il y a certains musiciens où les maisons de disques les ont ostracisés, tout simplement. Je pense à Gil Scott-Heron dans les années 80, quand il critique ouvertement la politique déplorable de Ronald Reagan, il va se faire mettre, enfin sa maison de disques Artista va se séparer de lui. Mais on peut citer aussi dans le monde des droits civiques ce grand personnage... Pourquoi j'ai un trou cet acteur, et c'est terrible, ma mémoire me fait défaut. Harry Belafonte, lui va être ostracisé du monde du cinéma parce qu'il s'est investi justement dans les droits civiques, dans le mouvement des droits civiques. Donc c'est très compliqué. Et puis, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand certaines musiques vont être, entre guillemets, être mises au pas par l'industrie du disque, il y a toujours un artiste qui arrive à s'en sortir pour se glisser à travers les mailles.
C'est-à-dire, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le rap US est en quelque sorte... Elle fait partie du système maintenant. Est-ce que le rap, malgré tout, il y a une liberté dans cette musique-là?
Oui, mais alors c'est toujours pareil. C'est que, par exemple, quand on prend, parce qu'il y a différents raps, différentes périodes, différentes villes, enfin on parle de côte ouest, côte est, enfin ça a toujours existé. Les États-Unis sont un pays très très grand, et forcément quand vous faites de la musique sur le bord du Pacifique, c'est pas la même chose que vous faites sur le bord des lacs, des grands lacs au nord. Et donc, le rap... Cette mise en valeur, parce que pour beaucoup de gens qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas cette musique, on a cette image du rappeur ultra-viriliste, violent, armé, sexiste, dans sa grosse voiture sur les routes de Los Angeles, les routes de la ville de Los Angeles. En fait, par exemple, ça a été très mis en valeur par les maisons de disques, notamment tout ce qu'on appelle les duels entre rappeurs à distance, entre morceaux, c'est quelque chose que mettaient en valeur les maisons de disques, en fait. Alors qu'en fait, si on se penche sur ce qu'on appelle le gangsta rap, c'est pas un hasard s'il naît dans les quartiers noirs de Los Angeles dans les années 90, qui est un endroit où la police se comporte comme une armée d'occupation, où la violence d'État met touche à quelque chose d'effroyable, où la police est organisée pour pas que les noirs sortent de ces quartiers, en fait, et où on va tout mettre en place pour criminaliser le jeune noir. Voilà, quel qu'il soit vendeur de crack ou pas, qu'il soit chômeur ou pas, qu'il soit... Enfin voilà, l'idée c'est que le jeune noir de ces quartiers doit être criminalisé. Et donc vraiment, le rap, la violence qu'on trouve dans le gangsta rap, en fait c'est comme le blues au début du XXe siècle, ça raconte la violence subie par ces populations. Vivre dans Camptown ou Watts dans les années 90, enfin c'est cette, enfin c'est ce qui va déclencher les révoltes de Los Angeles. C'est je suis désolé, j'ai vraiment un problème avec les noms ce soir. Rodney King qui va se faire
voilà 90.
Voilà, c'est vraiment c'est ça ce qu'a vécu Rodney King, c'est le quotidien des quartiers noirs de Los Angeles. La police se comporte comme encore une fois de façon ultra violente et donc c'est normal que cette musique raconte cette ultra-violence. La pauvreté, le moyen de s'en ressortir, bah on fait comme on peut, en fait. Comme disait 50 Cent, le crack, c'était pas une solution, c'était la seule solution, en fait. La mère de Notorious Big, elle était droguée au crack et du coup, il vendait pour à la fois pour fournir sa mère, puis surtout pour pallier aux besoins, en fait, de sa famille, en fait. On ne devient pas trafiquant par envie, en tout cas dans ces quartiers-là où finalement, c'est pas le petit trafiquant de la rue qui va gagner beaucoup d'argent, en fait. Hein. C'est ceux qui sont dans leur villa, je sais pas où, en Colombie ou à Miami ou je sais pas où. Oui, les grands trafiquants, mais encore une fois, le prolétariat du trafic de drogue, c'est plus parce que on peut pas faire autrement dans ces quartiers-là, encore une fois.
Pour finir, Christophe Ilassama, je rappelle, vous m'avez dit que c'est un travail de 7 ans, ce livre. Effectivement, c'est un travail très, très exhaustif, avec beaucoup d'informations sur les artistes nord-américains. Enfin bon, j'invite en tout cas nos auditeurs à le lire. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous, Christophe Ilassamers. Le son de la révolte, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Donc, une histoire politique de la musique noire américaine. Voilà donc pour ce livre. Je remercie donc Philippe Dunford qui était à la technique ce soir. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibe. Je vous donne rendez-vous samedi prochain 19h sur Aligre FM 93.1. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine et à samedi prochain. À bientôt.
Version originale. Patrick, Léon-Émile. Yeah.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got to win the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sent us the corner hugger. Seeing this nigga shining, annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony. Got Montana motors. You bought 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we know it. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. A buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas, since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'm a murder.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.